soir, lancement mardi dernier par le chef de l'État du début des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans le Bandundu. Selon le ministre de l'Agriculture, ce projet permettra aux Congolais notamment d'accéder à des denrées alimentaires variées à des prix acceptables. Comment analyser cette initiative du gouvernement et quel pourrait être son impact dans la relance de l'agriculture en RDC? Nous en parlons avec François Nzekouye, il est député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Bonsoir François Nzekouye.
Bonsoir.
Professeur Mathieu Kalele, il est professeur de sociologie à l'Université de Kinshasa et président du Front pour un nouveau type de Congolais, parti politique de l'opposition. Bonsoir professeur Mathieu Kalele.
Bonsoir.
Et Madame Marie-Hortense Manyonga, elle est experte, ingénieure agronome et docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique. Bonsoir Madame Marie-Hortense Manyonga.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Lancement mardi dernier par le chef de l'État du début des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans le Bandundu. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités tant civiles que militaires. Il s'agit selon lui de la modernisation de la vision de la révolution de la modernité dans le secteur agricole. Une initiative applaudie par tous les intervenants de la cérémonie de ce jour, à savoir le gouverneur du Bandundu, le ministre de l'Agriculture et le directeur de l'entreprise sud-africaine chargée de la gestion de ce site. Mais que peut-on retenir de ce projet de Bukangalonzo? On écoute ce reportage de Mimi Ngumba Mulongo.
Le parc agro-industriel de Bukangalonzo est un site de 75 000 hectares. Il est situé entre les rivières Kwango et Lonzo, à 3 heures de route du centre-ville de Kinshasa. L'initiateur du projet, soit le gouvernement, compte consacrer près de 10 000 hectares de ce site à la culture des légumes et produits maraîchers, tels que maïs, soya, oignons, piments, carottes, haricots verts, pour ne citer que ceux-là. Et c'est là, à partir du mois d'août, à en croire les gestionnaires du parc. Toujours dans le cadre de ce projet, il est prévu la construction de poulaillers et de porcheries, sans oublier les investissements d'accompagnement dans des logements, écoles, électricité et un centre médical. Une initiative saluée par plusieurs personnes présentes ce mardi à Bukangalonzo, dont les députés Jean Kimbunda.
La province de Bandundu souscrit entièrement à ce projet. Nous voudrions maintenant lancer un appel aux investissements privés pour qu'ils prennent le relais de la production, de la transformation agricole, afin que véritablement nous puissions lutter contre la faim, contre l'insécurité alimentaire.
Notez cependant que pour l'exécution de ce vaste projet, le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars américains.
Le président Joseph Kabila a lancé mardi dernier le parc agro-industriel de Bukangalonzo, localité située à 300 km de Kinshasa, dans les Bandundu. Selon le ministre de l'Agriculture, c'est le début d'une série que le gouvernement compte installer dans les provinces du pays. Chrysostome Vahamwiti indique qu'avec la mise en service de ce parc agro-industriel, le gouvernement attend offrir à la population des produits alimentaires équilibrés et à des prix abordables. On l'écoute.
Avec le lancement aujourd'hui du premier parc agro-industriel pilote de Bukangalonzo, le gouvernement de la République attend passer à la vitesse supérieure dans la relance du secteur agricole de notre pays. En fait, point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo dispose d'un énorme potentiel agricole avec au moins 80 millions d'hectares de terres arables. Une diversité climatique et un réseau hydrographique permettant à la République démocratique du Congo de développer une variété de cultures. Malheureusement, en dépit de ce potentiel, le niveau de production agricole reste trop bas et ne permet pas de freiner la malnutrition et la sécurité alimentaire. Cela est principalement dû au fait que les agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance qui nécessite aujourd'hui d'être aussi modernisée afin d'accroître la productivité et par ricochet la production et de répondre ainsi aux défis de la sécurité alimentaire.
François Nzekouye, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Et quel sens vous donnez à cette initiative du gouvernement congolais?
Cette initiative du gouvernement congolais entre dans ce que le chef de l'État nous a dit le 14 septembre 2011 à Kingakati, où il nous disait que nous devons nous engager à faire du Congo, ce don béni du ciel, un pôle d'intelligence et de savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique et un pôle économique industriel, une terre de paix et de mieux-être, une puissance régionale au cœur de l'Afrique. À propos de l'agriculture, il dira ce jour-là, il avait mis en exergue l'atteinte en 2020 du statut de puissance agricole de la RDC. C'est à la fois un préalable à la puissance industrielle et le fer de lance d'une lutte efficace contre la pauvreté. Et donc ce n'est qu'une matérialisation de ses idées, une matérialisation de son projet de la révolution de la modernité que d'aucuns doutent par moment quand il est dit, mais qui se met à l'évidence quand des actes se posent. Mais c'est projet pilote qui va, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, aider la population congolaise petit à petit à réduire les importations de produits agricoles parce que nous sommes trop dépendants. Nous dépensons chaque année autour de 1 milliard de dollars d'importations en produits agricoles. Et donc nous devons arriver non seulement à réduire mais à éliminer une majeure partie des importations parce que nos terres les permettent. Nous rappelons aujourd'hui que la RDC dispose, je ne serai pas contredit par l'experte ici, 80 millions de terres arables. Et Bukangalonzo est un centième simplement de ces terres arables. Mais ce n'est rien, ce n'est pas rien plutôt, parce que quand vous regardez 75 000 hectares, c'est à peu près 8 fois plus que la ville de Paris et 2 fois et demi plus que la ville de Kinshasa qui compte aujourd'hui 24 000 hectares. Et donc, voilà. C'est une opportunité que le chef de l'État vient de lancer et qui contraste avec les discours de l'époque où on faisait l'agriculture priorité des priorités sans qu'on investisse aucun sou dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 83 millions de dollars comme fonds de départ qu'on vient d'investir, mais au bout de 5 ans, ça devra arriver à 280 millions de dollars d'investissement pour des rendements autour, je vais dire, au bout de 5 ans, de plus de 500 millions de dollars. Et donc, c'est vraiment quelque chose de rentable, d'utile pour la nation congolaise, pour que nous puissions véritablement devenir une puissance agricole à l'horizon 2020.
Voilà. Lorsque vous suivez les discours que le ministre de l'Agriculture avait prononcé le jour du lancement de ces projets, vous vous rendez compte que c'est un projet ambitieux. Et quelles sont ses sources de financement?
En tout cas, la principale source de financement, ce sont les impôts que vous et nous payons. Et c'est là encore le moment de rappeler à tous les citoyens l'essence de l'impôt. L'impôt n'est pas de l'argent versé dans la caisse de l'État qui est consommé par quelques individus. C'est de l'argent qui sert à apporter un mieux-être à la population congolaise. Et donc, plus chacun d'entre nous, personne physique ou morale, paiera ses impôts, plus le gouvernement de la République pourra investir dans des projets aussi ambitieux que celui-ci ou des projets de sécurité comme nous avons vu le 30 juin avec l'équipement des armes parce que sans paix, il n'y a pas de pain.
Voilà, c'est l'Afrique du Sud qui est partenaire de la RDC dans ces projets. Quelle est la part de l'Afrique du Sud dans ces projets?
Africom, qui est une société sud-africaine, a été engagée par le gouvernement de la République comme gestionnaire du projet. Tout simplement parce que nous savons l'expertise sud-africaine en cette matière. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous voyez des étendues et des étendues de terres cultivées. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est parmi les plus grands exportateurs de produits vivriers et des produits de pêche en Afrique. Et donc, ce sont des personnes expérimentées qui vont non seulement démarrer ces projets, mais former des Congolais pour pouvoir transférer l'expertise sud-africaine aux Congolais pour que dans les années à venir et les projets qui vont suivre, les Congolais puissent eux-mêmes piloter ces projets pour le bien-être de la ville du Congo.
Voilà, le ministre de l'Agriculture avait affirmé que les produits issus de ces projets seront accessibles non seulement en termes de distance, mais aussi en termes de revenus, que les prix seront réduits. Et par rapport à la distance François Zécouyer, ce parc est situé à 3 heures des routes du centre-ville de Kinshasa. Et donc, il faudra consentir beaucoup de sacrifices pour s'approvisionner. Ça, c'est par rapport à la distance. Et en termes de prix, ces produits devront quitter la province de Bandundu pour la ville de Kinshasa. Et or, on sait qu'il y a des taxes qui doivent être payées en amont comme en aval. Et vous pensez qu'avec tout cela, les consommateurs finaux pourront s'approvisionner à des prix abordables?
Absolument. D'abord, à propos des distances, je tiens à vous informer que la société qui va gérer les parcs agro-industriels a prévu d'installer des centres d'achat à Kinshasa. Et donc la population de Kinshasa ne devra pas se déplacer pour aller à Bukangalonzo pour acheter les produits qui viendront de ces parcs agro-industriels. En matière de prix, tenant compte du fait que ce sont des grandes étendues qui vont être cultivées, il y aura et donc avec la loi du grand nombre une réduction des prix. Parce que quand vous cultivez des petites étendues, les intrants ou le coût de revient est souvent plus élevé, mais quand vous agrandissez en termes de quantité, le coût de revient se réduisent. Et donc, nous devons espérer que, effectivement, les prix à la consommation vont être très réduits, en tout cas au prix du marché, pour que toute la population rwandaise puisse en profiter et les excédents puissent être exportés. Parce que c'est des projets ambitieux. Je parie que pour ce qui concerne Bukangalonzo, on ne pourra pas exporter à court terme. Mais quand on va installer des parcs agro-industriels dans toutes les autres provinces, notre production pourrait bien arriver à permettre à ce que l'Afrique subsaharienne, qui est menacée par les déserts, puisse être approvisionnée par ce grenier qui est la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Mathieu Kalele. Vous êtes président du parti de l'opposition Fonds pour un nouveau type des Congolais. Comment vous analysez cette initiative du gouvernement congolais?
Bien, je crois que le projet en idée ne pose pas de problème. On peut dire au départ que c'est un bon projet. Mais je ne sais pas si on a pris soin de s'inspirer du passé. Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de relancer l'agriculture. Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de projets agricoles. Surtout après l'accession du pays à l'indépendance. Il y a eu énormément de projets. Et beaucoup de ces projets ont malheureusement échoué les uns après les autres. Il faut voir pourquoi ils ont échoué. Il y a un problème, entre autres, de la concurrence avec les produits importés, qui, eux, sont subventionnés. Si, ici, on ne subventionne pas, vous serez devant une triste réalité que les produits importés vont coûter moins cher que les produits locaux. On a connu ça dans le passé. Deuxième chose, le Congo, comme l'Afrique, comme le tiers-monde, est un marché non seulement pour les produits finis de toutes sortes, mais aussi pour les produits finis agricoles du Nord. Or, vous savez que dans le programme d'ajustement structurel, il y a une rubrique qui prévoit de nous prêter de l'argent pour acheter leurs produits à lieu place de d'autres. Comme par exemple le poisson, Calémie et tout ça, il y a du poisson, mais nous importons les piodi. Ça a joué négativement dans le passé. Il y a également une cause qui est intervenue, c'est une politique définie déjà par la Belgique avec Paul-Henri Spaak quand il était ministre des Affaires étrangères. Parlant de la concurrence entre les industries métropolitaines et les industries de la colonie, il disait, si l'on constate que les industries de la colonie concurrencent dangereusement les industries métropolitaines, il faut supprimer les industries de la colonie. Enfin, il y a un autre problème, j'espère qu'ils y ont pensé, le problème de terres. Je pense que ces terres-là ont été occupées et exploitées par les paysans locaux. qu'est-ce qu'ils vont devenir? Faudrait pas qu'on assiste comme dans le secteur minier à la délocalisation d'un certain nombre de villages sans leur trouver de moyens de rechange. Enfin, on nous parle des intervenants sud-africains. J'espère qu'ils investissent. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Est-ce qu'on a pris précaution qu'après l'expropriation des espaces miniers, forestiers ailleurs, on ne procède pas à une expropriation des terres à l'intérieur, dans la campagne, et il y a des terres qui risquent de nous échapper au profit des étrangers. Je sais également que de ce côté-là, dans le même espace, doit y avoir une ferme du ministre délégué aux finances, gérée également par les Sud-Africains. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sud-Africains, dans tout ça. Bon, si ces précautions ont été prises, parce que je n'ai pas beaucoup de détails, d'accord, mais il fallait qu'on s'inspire du passé, parce qu'il y a eu beaucoup de projets agricoles, beaucoup de déclarations qu'on va devenir indépendant, l'indépendance du ventre, malheureusement, ça n'a pas abouti.
Oui, professeur, vous saluez ces projets. À l'occasion du lancement de ces projets, le conseiller à la primature, M. John Moussissa, avait affirmé que toute cette initiative, c'est pour nous libérer premièrement de la dépendance des importations. N'est-ce pas qu'il a raison quand on sait que même le député Nzekui l'a confirmé ici, que la RDC importe les produits agricoles pour $1 milliard par an?
Oui, je dis que ce n'est pas la première fois qu'ils affirment ça. Je me place, moi, dans une perspective du passé. Tout ça a été dit dans le passé. Je sais que, par exemple, entre 1972 jusqu'à 1984, nous avons eu ici 10 projets agricoles de grande importance. On nous a affirmé que ça allait nous libérer de la dépendance extérieure. Mais je vous dis qu'il n'y a pas que le Zaïre ici, que le Congo ici. Vous avez la concurrence des firmes agricoles extérieures qui a joué beaucoup avec les subventions contre nos produits agricoles. Les paysans là, soumis à cette concurrence dans cet espace-là, qu'est-ce qu'on a prévu pour eux pour écouler leurs produits agricoles? C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas commencer une histoire aujourd'hui, faire comme si ça n'avait jamais existé quelque part.
Merci Marie-Hortense Manyonga, experte ingénieure agronome et docteur en sciences agronomiques et ingénieure en ingénierie biologique. En tant qu'experte, comment analysez-vous ces projets du gouvernement congolais?
Bien, pour ma part, comme vient de dire le professeur Kalele et monsieur de la majorité,
François Zekouye,
en fait, l'initiative n'est pas mal du tout, parce que depuis longtemps, même les pays africains se sont eux-mêmes accordés à augmenter les budgets. Leur budget respectif pour l'agriculture, ben c'est déjà un grand pas, mais moi personnellement je trouve que l'initiative est bonne, mais la démarche présente quand même beaucoup de risques. Pourquoi? À mon avis, déjà quand on parle de parc agro-industriel, là on pense à une agriculture intensive. Et quand on parle d'agriculture intensive, on voit l'utilisation de beaucoup d'intrants agricoles, notamment la mécanisation, l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides. Et nous avons vu, professeur Kalele parlait de regarder le passé dans notre pays, mais j'exhorte aussi la population et tout, ainsi que le gouvernement, de regarder aussi ce qui s'est passé à travers le monde. on a constaté que cette agriculture intensive qui a été prônée en Europe et en Occident, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, pour lutter contre les problèmes de famine, a occasionné des grands problèmes sur le plan de l'environnement, de la santé, donc par l'utilisation excessive des engrais et des pesticides. D'ailleurs, on verra aujourd'hui que en Europe, nous enregistrons beaucoup de cas de pollution de l'environnement, beaucoup de cas de pollution des eaux, des nappes phréatiques, des problèmes qui touchent même la santé humaine. Voilà, ça c'est le cas des cancers, etc. Donc, ma crainte ici est de savoir est-ce que le gouvernement aura une mesure où il a mis en place une structure de contrôle de tout ce processus de production agricole. Quelle garantie Africom, qui est désigné comme le gestionnaire de ce projet, quelle garantie Africom donne à la population congolaise de faire une agriculture qui respecte l'environnement? Donc le parc agro-industriel de Bukangalonzo se trouve entre la rivière Kwango, la rivière Lonzo, et sans compter les ruisseaux qui sont dans les environs, dans les parages. Que vont devenir toutes ces rivières si nous arrivons par exemple à une utilisation abusive des engrais? Alors si nous arrivons à une utilisation abusive des pesticides, que va devenir l'écosystème du Bandundu? Tous les insectes, tout, etc. Les nappes phréatiques, n'en parlons pas. Voilà ma crainte en fait. La démarche n'est pas mal, mais je ne vois pas très bien là où le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser cette production. Voilà ma crainte. Et une autre de mes craintes, c'est je ne vois pas la place de l'agriculture paysanne. Parce que n'oublions pas que jusque-là...
L'armée relevée, voilà, c'est toujours les professeurs.
Voilà, je ne vois pas la place de l'agriculture paysanne. N'oublions pas que jusqu'à présent, tout ce qui se trouve sur le marché local, parlons des produits locaux, notamment les manioc, les maïs, etc., des légumes, sont produits par cette couche-là de cette population paysanne. C'est environ 80% de la population congolaise. Alors, si je vois à long terme, le gouvernement a le projet ambitieux de créer à peu près 24 sites de ce genre à travers le pays. Bon, que va devenir cette couche-là de 70% des paysans qui ne vivent que de l'agriculture, qui n'ont que l'activité principale, l'agriculture? Oui. Parce que on risque d'avoir une concurrence déloyale entre ces produits qui seront produits par les investisseurs qui ont beaucoup de moyens au détriment de l'agriculteur.
Oui.
Une dernière préoccupation, quelle est la place de l'expertise congolaise dans tout ça?
Voilà, madame, voilà. Vous avez relevé beaucoup de préoccupations. L'idée, elle est bonne, mais comme vous l'avez dit, elle suscite un débat. Certaines personnes se demandent pourquoi lancer un tel projet alors que beaucoup de projets similaires n'ont pas abouti, hein. Pourquoi ne pas concentrer les efforts sur les projets tels que Daipen avant d'envisager de lancer Bukangalonzo?
Ben voilà, donc pourquoi? Moi j'aurais, franchement, je pense que bon, l'idée est bonne, l'initiative est bonne, mais je ne sais pas, c'est sûr qu'il y a... Il y a des confrères, des agronomes de grande renommée qui ont été consultés par le gouvernement, mais je crois qu'il y a un grand aspect, il y a un point très très important qui a été oublié dans tout ça. C'est les vrais acteurs de l'agriculture congolaise aujourd'hui qui sont les paysans. Parce que ne me dites pas que c'est un parc ou 24 parcs agro-industriels qui vont nourrir les ménages de ces agriculteurs. Mais que vont faire ces agriculteurs si ces 24 sites veulent les nourrir à bas prix? Quelle alternative on leur donne pour avoir des revenus?
Merci pour toutes ces questions, madame. Malheureusement, on n'a aucun membre du gouvernement dans cette émission, donc il y a des questions auxquelles on ne pourra pas avoir des réponses. François Nzekouye, vous avez suivi le professeur Kalele qui a, n'est-ce pas, exprimé des craintes hein, que l'expérience malheureuse du passé ne soit rééditée à travers ces projets. Madame Marie-Hortense Manyonga, et qui parle de cette agriculture intensive qui a un impact néfaste sur l'environnement et sur la santé, et se demande quelles sont les précautions, n'est-ce pas, qui ont été prises par le gouvernement pour réduire tous ces risques-là.
Oui, en fait, j'ai l'impression que la plupart des préoccupations me sont adressées, même si je n'ai pas toute la qualité pour y répondre.
C'est vous qui êtes de toute façon,
je vais devoir répondre à toutes ces préoccupations. D'abord, par rapport au professeur Kalele, nous ne devons pas vivre avec un regard tourné vers le passé. Ce n'est pas parce qu'on a échoué par le passé qu'on ne doit pas réussir aujourd'hui ou demain. Et les acteurs d'hier ne sont pas les acteurs d'aujourd'hui. Et les preuves nous sont données par la volonté affichée par le pouvoir Kabila de commencer des projets et de les faire aboutir. En matière d'infrastructure, nous avons vu des preuves. Quand nous avons commencé avec les travaux de modernisation des routes de Kinshasa, personne ne nous faisait confiance. Nous l'avons fait et nous sommes en train de continuer. Quand nous avons commencé la modernisation de l'hôpital cinquantenaire, les gens diraient « Oh, cet hôpital existe depuis l'époque coloniale et on ne pourra jamais le terminer. » Aujourd'hui, c'est un hôpital moderne qui existe aujourd'hui au Congo. Les projets de modernisation de l'armée, nous sommes en train de les vivre. On a équipé notre armée de matériel moderne. Et de la même manière, nous allons faire aboutir les projets pilotes de Bukangalonzo et d'autres projets à travers la bulle du Congo.
Et par rapport aux préoccupations
de madame, madame a des préoccupations qui rencontrent mes sensibilités parce que je suis d'abord environnementaliste. Et donc, le projet a été précédé par une étude d'impact environnemental préalable. Et les technologies qui ont été recommandées à Africom sont des technologies qui soient les moins polluantes possibles. Nous n'allons pas entrer dans le détail, je pourrais donner une documentation à madame pour la rassurer par rapport à ça. Mais j'ai une préoccupation qu'elle a soulevée et à laquelle il faut absolument apporter une réponse, c'est la question des populations locales ou des populations qui vivent de l'agriculture. Les projets n'ont pas non plus oublié ces personnes. Il a prévu que 10% des terres prévus pour le projet, doivent être utilisés par la population locale sous l'encadrement d'Africom, de manière à ce que ces populations-là continuent à vivre, ou mieux encore, améliorent leur production maraîchère. Et elle a soulevé la question de la place de l'expertise congolaise, elle a aussi été prise en compte. Africom ne viendra pas avec tous les Sud-Africains à Kinshasa ou au Congo pour pouvoir faire ce travail. Il y a des ingénieurs agronomes qui sont déjà engagés des Congolais, qui font partie du staff du parc agro-industriel. En même temps, une école va être construite d'ici le mois d'août dans les terrains de Bukangalonzo pour une mise à jour régulière du personnel de manière à ce que tous puissent avoir le même niveau de compréhension et les expériences positives ou négatives qui vont être rencontrées sur le terrain puissent être échangées. Et donc, toutes ces questions-là sont bien prises en compte par les projets, mais j'espère que nous devons laisser le temps au projet de se mettre en place et le regarder régulièrement pour voir les dépenses qui ne peuvent pas manquer parce que c'est une œuvre urbaine qui pourrait bien évidemment être améliorée par le conseil des
industries. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Emmanuel Niroué de Bukavu au sud Kivu. Les projets de construction des parcs agro-industriels lancés par le président Kabila est à saluer. Mais cependant, nous restons sceptiques quant à sa réalisation au regard du fait que le Raïs Kabila a déjà promis beaucoup de choses qui restent jusqu'à aujourd'hui lettres mortes. Par exemple, la gratuité de l'enseignement primaire, les 5 chantiers, etc. Le même souci d'offrir à la population congolaise une variété de produits alimentaires à des prix abordables avait été manifesté en vain par l'ex-ministre de l'Agriculture, Norbert Kantintima. Partant de cela, quelle stratégie le ministre Jean Chrysostome Vahamwiti va-t-il mettre en place pour que ces projets soient cette fois-ci réels et bénéfiques à l'ensemble des Congolais? Pourquoi la réalisation des projets pose problème en RDC? Est-ce un problème de calcul budgétaire ou un simple détournement des projets et des financements?
Oui, une question avec beaucoup d'aspects.
Quand les prémices sont fausses, les conclusions sont fausses. les compatriotes disent que toutes les promesses de Kabila ne sont pas avérées réalisables. Je viens de vous en citer plusieurs qui ont été réalisées. La question de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, du primaire d'abord pour un premier temps, elle est faite. L'État donne des frais de fonctionnement aux écoles, mais il y a un gap entre ce que les parents payaient aux enseignants et ce que le gouvernement donne. Ça pourra s'améliorer progressivement. Je ne suis pas venu ici pour défendre toute la politique du gouvernement, si ça n'est pas, je viens de le dire encore, la qualité. Mais je voulais revenir à une autre préoccupation de madame, l'utilisation de la culture intensive. Aujourd'hui, ce que nous consommons dans notre assiette aujourd'hui provient de la culture intensive. Vous êtes d'accord avec moi? Nous importons tout, 80% de notre consommation vient de l'étranger. Et donc, nous ne pouvons pas réduire les gaps qui existent aujourd'hui entre la production interne et ce que nous importons si nous n'allons pas vers la culture intensive. Mais je suis d'accord totalement avec elle que nous devons prendre toutes les précautions d'usage pour que, effectivement, nos produits que nous consommons ne soient pas pollués, parce que moi, j'ai beaucoup peur de manger les chinchards aujourd'hui. J'estime que ce sont des produits qui ont été conservés, mal conservés pendant longtemps. Il faudrait qu'on améliore notre production. Même la culture intensive peut bénéficier des améliorations en termes de réduction des engrais, de réduction des pesticides qui doivent être épandés pour éviter qu'il y ait des insectes. Toutes ces questions-là doivent être réfléchies pour que nous puissions avoir une agriculture qui soit propre, une agriculture bio, mais nous ne pouvons pas rêver et croire que nous allons y arriver du jour au lendemain parce que tout ce que nous consommons venant de l'extérieur aujourd'hui n'est pas nécessairement des produits de l'agriculture biologique.
Merci, professeur Kalele. Vous avez suivi François Nzekouye parlant de l'expérience malheureuse du passé. Il estime que nous sommes dans un autre contexte avec de nouveaux acteurs qui non seulement ils conçoivent des projets mais aussi les financent.
Oui, mais d'abord, M. Zikouye dit que les questions lui sont adressées. Non, il n'est pas concepteur du projet. On ne s'adresse pas à lui comme individu ou comme membre d'un parti politique. Non. Il dit qu'il ne faut pas regarder le passé. Malheureusement, moi, je suis scientifique. J'ai appris que le passé nous aide à prévoir l'avenir et à éviter les erreurs. On ne va pas oublier le passé. Non, il doit nous inspirer. Qu'est-ce qui a été commis comme erreur? Où est-ce qu'il faut corriger? Où est-ce que ça a bien marché? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Tous les gens qui vivent aujourd'hui, ils ne sont pas nés avec la génération Kabila. Nous, nous sommes nés avant cette génération. On doit en tenir compte. Il ne faut pas non plus agir comme si nous étions seuls dans ce monde. Il y a une concurrence internationale certaine. Nos pays sont considérés jusqu'aujourd'hui comme des marchés pour beaucoup de produits, y compris les produits agricoles. Mais il faut en tenir compte.
Professeur.
Pourquoi nous avons, par exemple, le lac Tanganyika là-bas, avec beaucoup de poissons. Le fleuve avec beaucoup de poissons. Pourquoi nous importons des chinchards? Ça, ce n'est pas un fait de hasard.
Oui, professeur, nous avons pour vous une question qui vient de Kinshasa.
Oui.
Patrick Assema à Kinshasa. L'événement de ce parc agro-industriel est à saluer du fait non seulement de son caractère moderne et industriel, mais parce que sa gestion judiciaire réduira également l'insécurité alimentaire que connaît notre pays et créera l'abondance de produits agricoles, par conséquent leur exportation. Le gouvernement central doit cependant collaborer avec le gouvernement professeur de Bandundu, dont les chances de la relance de son projet de village agricole seront réduites par la mise en œuvre de ces parcs agro-industriels avec toutes les conséquences que cela pourra entraîner. L'on doit par ailleurs privilégier la main-d'œuvre de la population locale en lieu et place de celle étrangère. Enfin, il est impérieux que les gestionnaires de ces parcs ou de ces structures soient des hommes et femmes loyaux, intègres et vertueux. Sinon, ce serait un coup de pêche jeté dans l'eau.
Oui, professeur, cette intervention nous permet de passer à la deuxième question de cette mission. Quel pourrait être l'impact de ce projet dans la relance de l'agriculture en RDC?
Bon, j'ai dit que voyons voir, parce que c'est des déclarations d'intention que nous jugeons, comme je l'ai dit, en tenant compte du temps et de l'espace. Je voudrais simplement également dire que il y a des projets où le gouvernement a décidé de prendre des parts. On a vu aussi dans le passé qu'il n'a pas honoré ses parts. La gestion est donnée aux Sud-Africains, ce n'est pas la première fois. On donne aux étrangers, il faut être très regardant. Demain, nous allons juger le projet à partir des réalisations. Si ça fait la différence qu'effectivement il y a abondance, qu'effectivement il y a baisse des prix, on dit ok, mais ça ne nous empêche pas de faire des analyses prospectives en tenant compte du passé, ça ne serait plus scientifique ça.
Madame Marie-Hortense Manyonga, quel pourrait être l'impact de ce projet dans la relance de l'agriculture en RDC?
Ça peut être déjà qu'il y a... J'ai vu qu'il y a aussi un programme d'école agricole. Moi, je suis enseignante. Donc, ce serait bien déjà pour... du point de vue de l'apprentissage et même de la formation des agronomes à tous les niveaux ici au Congo. L'impact aussi peut être, si tout va bien, évidemment, comme le professeur Khalil vient de le dire, qu'on voit qu'il y ait des débouchés positifs par rapport à l'assiette du Congolais, mais aussi, ma crainte est surtout, je vois très mal comment est-ce que ça va augmenter les revenus des gens. L'assiette, le consommateur, oui, peut-être il pourra acheter à moindre prix, mais 70% de producteurs locaux, des paysans, en quoi est-ce que, on verra bien, 10% des terres allouées à la population locale, ça sera sous quelle forme? Est-ce que ça sera un peu sous forme comme des paysannats à l'époque des Belges? Dans les 10% qu'on va donner à la population locale, est-ce qu'ils vont bénéficier aussi des intrants agricoles? À quel prix? À quelles conditions? Et comment est-ce qu'Africom va collaborer avec ces paysans qui vont occuper les 10% des terres qui leur seront octroyées? Est-ce qu'Africom ne va pas s'imposer? Est-ce qu'Africom ne va pas les berner comme on a vu les grandes sociétés minières s'installer au Congo et berner les populations locales en disant nous allons prendre la main d'œuvre locale? Et à la fin, la population locale n'a eu que des conséquences négatives des implantations de ces grandes compagnies industrielles. Donc voilà, on va voir, mais cela ne nous empêche pas, nous en tant que scientifiques, en tant qu'acteurs aussi, d'être très très regardants et de demander, de donner des recommandations au gouvernement. L'étude environnementale qui a été faite, oui, l'étude peut être faite, mais quelles sont les garanties qu'il y aura des respects, même si on peut bien formuler tous les règlements, quelles sont les garanties que les Sud-Africains nous donnent dans le respect de l'environnement, etc. Et puis, il y a des sociétés, il y a eu appel aux investisseurs internationaux qui viendront pour l'exploitation de cet espace.
Moi,
parmi ces investisseurs, il y a des grandes sociétés sémencières, par exemple. Ils vont venir, moi je ne pense pas que ces grandes sociétés viendront pour valoriser le matériel génétique local, mais ça sera pour valoriser leur propre matériel génétique qui a été synthétisé en Afrique du Sud ou ailleurs. Voilà un peu ma crainte.
Madame, nous avons aussi pour vous une question qui vient de Kananga Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwei Pero à Kananga, au Kasai occidental. L'idée du gouvernement congolais est bonne, mais elle n'aura aucun impact sur le social congolais dans la mesure où l'agriculture n'a jamais occupé une place de choix au Congo. Pour que l'idée du gouvernement ait un impact sur la vie sociale au Congo, non seulement il faut que l'agriculture soit une priorité des priorités, comme ailleurs, mais aussi et surtout, il faut que le gouvernement congolais définisse clairement sa politique en matière agricole.
Oui, madame.
Oui, ce que monsieur Maître de Kananga vient de dire, il est vrai que au niveau du gouvernement, comme monsieur François Zekouy l'a dit, le gouvernement a la volonté de placer l'agriculture, de s'investir dans l'agriculture, ça on ne peut pas le nier, la volonté est là. Mais on ne peut pas dire aussi que l'agriculture n'a pas une place de choix dans la population. Au niveau de la population, non. C'est le contraire. La population fait l'agriculture depuis longtemps. C'est au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, que l'agriculture doit petit à petit prendre sa place. Et alors, une chose importante, c'est que au Congo, il y a un manque de politique agricole. Un manque de politique agricole sur le plan global. C'est pourquoi d'ailleurs nous aboutissons par exemple à la mise en place de ce genre de projet où il n'y a pas eu... Voilà.
Merci madame. François Découyé, quel pourrait être l'impact de ces projets dans la relance de l'agriculture au Congo?
Plusieurs impacts positifs. D'abord, nous allons réduire notre dépendance vis-à-vis des importations de produits agricoles, notamment ou principalement le maïs qui a été considéré comme la spéculation principale. Bien évidemment, il y a d'autres spéculations, notamment en termes des légumes qui ont été cités. En même temps, il y a un transfert de technologie que nous allons recevoir d'un pays qui est un des pionniers, en tout cas en Afrique, dans le domaine agricole. En même temps, nous pensons que nous pouvons, avec l'accroissement et l'installation de ces zones où ces parcs agro-industriels sur toute l'étendue du pays, accroître aussi notre niveau d'exportation de produits agricoles tel que nous l'avons été au niveau de l'indépendance et pourquoi pas dépasser ces seuils pour effectivement arriver à être une puissance agricole.
Vous avez suivi la question de madame qui s'est posé la question de savoir comment ce projet va augmenter les revenus du Congolais. Ça, c'est une première question. Et l'autre préoccupation, est-ce que les partenaires sociaux ont été associés à ces projets?
D'abord, par rapport aux Congolais, je viens de vous dire ici que la grande partie des personnes qui vont travailler dans ces parcs sont des Congolais. Et je tiens à souligner ici que c'est un projet du gouvernement de la République du Congo. Autant que nous avons, le gouvernement a sous-traité la gestion de l'hôpital cinquantenaire à des Indiens, autant le gouvernement sous-traite la gestion du parc pilote au Sud-Africain. Ce n'est pas un projet sud-africain. C'est un projet du gouvernement congolais financé à 100% par le gouvernement de la République, mais il a choisi un gestionnaire qui a l'expertise dans le domaine pour encadrer les Congolais. Donc, les Congolais qui vont travailler dedans vont tirer des ressources, des dividendes, mais aussi la population locale qui, non seulement va avoir 10% de terre, mais va être encadrée, aura des intrants et aura tout ce qu'il faut pour pouvoir faire sa culture de manière la plus moderne qui soit.
Merci, professeur Mathieu Kalele. Est-ce que vous pouvez conclure?
Oui, je dis qu'il faut prendre des précautions. Je ne serai pas aussi affirmatif que monsieur qui vient de parler. Il nous parle des écoles agricoles qui vont être construites là-bas. Vous savez, on n'investit plus à Yangambi. Hein? Moi, je suis à l'université de Kinshasa. La faculté des sciences agronomiques est une des plus pauvres. On laisse ce qui existe. On ne perfectionne pas, on crée autre chose. Ça, c'est faire des sauts de mouton. Les gestionnaires sud-africains sont en même temps actionnaires. Nous disons oui, mais soyons très regardants dans cette histoire-là.
Merci professeur.
Sinon, nous allons être roulés comme par le passé.
Merci professeur, madame Marie-Hortense Manyonga, votre conclusion.
Ma conclusion est ne regardons pas que les parcs agro-industriels, mais voyons aussi simultanément comment nous pouvons investir dans l'agriculture locale avec la population locale. L'agriculture locale est encore de subsistance parce qu'elle n'est pas subventionnée. Si on réfléchit sur un projet de subventionner l'agriculture des petits, des paysans, je crois qu'elle est capable aussi de nourrir le Congo.
Voilà. Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique. Merci à Céline Couté, Samuel Kachak, sous la supervision de Pele Kipela Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon soutien au programme sur Radio Okapi.